C'est dans une ambiance me rappelant quelque peu le désert de Black Rock au Nevada et son célèbre festival Burning Man que nous arrivons à Saint-Nolph après 4 heures de route pour le Motocultor Festival en envoyé spécial pour Pulse LR Radio Ferrarock. Il est 14h30, samedi 18 août, lorsque nous retrouvons Marcel et son poteau, tous deux mélomanes fraîchement retraités, venus s'éclater comme tous les ans durant tout un week-end sur du gros son qui tâche. À peine le temps de savourer une bonne bière brassée pour l'événement, de s'imprégner de l'esprit festif et multigénérationnel du motocultor, d'admirer quelques festivalières fraîchement vêtues, et il est déjà 15h30. Nous rejoignons donc Nico des Tagala Jones dans sa loge pour quelques minutes d'interview.
Eh bien, nous sommes en présence de Nico de Tagala Jones. Salut Nico.
Salut.
Alors, on devait tout récemment faire une interview ensemble, et puis faute de temps, on a décidé de remettre ça après votre tournée au Canada. Vous êtes tout fraîchement rentré en France, alors ça s'est passé comment?
Génial, bah, tu sais, le Canada, ça fait 18 fois qu'on y va pour faire une tournée. On a fait plus de 120 dates, bah, essentiellement au Québec. Hein. De temps en temps, on est sorti un peu du Québec, mais enfin, c'est quand même, c'est surtout basé sur le Québec. Et non, mais c'est vraiment génial. On tourne là-bas comme si on était un groupe québécois maintenant. Il y a même des jeunes qui pensent qu'on est québécois, c'est drôle tellement. On joue souvent, et puis on a nos petits, c'est génial, on connaît tellement bien Montréal, Québec, on a nos petites habitudes et tout, maintenant non, c'était vraiment super sympa, et en plus ça c'est assez condensé, tout, on a fait 5 concerts en 5 jours, on est allé 6 jours là-bas, hop, un aller-retour, non, c'était vraiment génial, donc je crois qu'on a pris rendez-vous déjà pour y retourner l'année prochaine.
Ah, vous avez tourné aux quatre coins du monde. Est-ce que parmi tous les pays dans lesquels vous avez joué, il y a un pays qui vous a marqué particulièrement?
Bah, je pense que c'est vrai qu'on avait pris une super claque quand on avait joué en Russie parce que c'est atypique, parce que c'est... Là, c'était génial l'année dernière aux États-Unis. Toi, on a vraiment adoré. Mais finalement, la Russie, c'était peut-être plus incroyable parce que qu'un groupe comme nous joue en Russie, c'est complètement dingue. D'ailleurs, le groupe qui nous avait invité, qui est un groupe russe punk, n'a plus le droit de se produire en Russie, donc tu vois, on y est passé vite, tu vois, ça a été limite, je veux dire. Et c'est vrai que une extrémiste. Et en fait, c'est vrai que le concert là-bas, ça a marché, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que le public nous a accueillis, mais comme si on était le groupe de tête d'affiche, tu vois. Et nous, on jouait juste avant eux. C'est eux, bien sûr, qui ont ramené tous les gens. Hein. Nous, on était inconnus, mais les gens, ils ont pété les plombs comme si on était un groupe ultra connu là-bas, quoi. C'était vraiment un super concert avec tout le folklore russe qui va avec. Hein, tu vois. On a mis du premier pied sur le tarmac jusqu'au moment où on est parti. On a eu de la vodka. Je crois qu'on n'a pas débrouillé les 4 jours, on est allé là-bas.
Vous venez de sortir un live au Hellfest avec un enregistrement réalisé lors du concert de 2017 dans une warzone blindée avec à peu près 20 000 spectateurs. Beaucoup n'ont pas pu voir le concert. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez sorti ce live?
Alors en fait, on n'avait pas du tout prévu de le sortir. C'est-à-dire que nous, on est allé faire un concert normal au Hellfest. C'est jamais normal parce qu'il y a beaucoup de gens, si tu veux, mais voilà, ça s'arrêtait là. On a appris quelques jours avant que ce serait retransmis en direct sur Arte. Bon, bah, très bien. Et puis, donc, on a fait notre concert, ça s'arrêtait là. Comme je dis souvent, t'as plein de concerts, que ce soit dans un tout petit lieu, un grand lieu, un petit festival, un gros festival. Souvent, ça se passe très bien. Puis, de temps en temps, t'en as qui rentrent dans la case magique, tu sais pas trop pourquoi. Ça peut être dû à plein de choses. Bon, ce concert au Hellfest, il est rentré dans cette case magique parce que c'était, toi, la fin d'après-midi, les gens étaient un peu picolés, c'était archi bondé. Il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à rentrer. Du coup, il y a eu une ambiance de dingue. Et puis, tout le monde a pété les plombs, nous y compris, tu vois, pop, pop, pop. Et on était vraiment hyper contents du concert. Ça s'est super bien passé, les gens chantaient, et quand on a regardé le live après sur Arte, on était méga déçus parce que c'est un mix sorti de console, il n'y a pas le public, il n'y a pas de micro d'ambiance. Alors bon, on s'est dit merde, putain, c'est vraiment con. Et puis après on a vécu avec ça pendant 6 mois, 8 mois même, en se baladant, en allant jouer dans un petit peu tous les quatre coins de France, avec plus de gens qui nous disaient qu'ils n'ont pas pu voir le concert, soit parce qu'ils tout simplement ils n'étaient pas au Hellfest, ou alors ils n'ont pas pu rentrer parce que la Warzone était archi complète. Donc bon bah, comme tu le sais sans doute, on est autoproduit, on a notre propre label, on est notre propre producteur, mais on donne des disques en exploitation à Atom en fait, un label indé. Et eux ils nous ont dit, alors en avril là, mais ce serait sympa de sortir le live au Hellfest parce que Sombrero, la boîte qui a capté en fait, qui est Arène d'ailleurs, qui a capté le concert en fait pour Arte, il a tout le multipiste. Et alors là, on a vite appelé le Hellfest en demandant est-ce que qu'est-ce que vous en pensez si on sort le live? Ils nous ont répondu aussi sec, génial, on trouve ça super, ça nous fait vraiment plaisir. Et là, donc ce qui a fait basculer la balance vers le oui, c'était tous ces gens qu'on avait vus pendant ces 8 mois qui nous ont tous dit on n'a pas pu voir le concert, Et on a enfin pu mettre l'ambiance, le public en remixant, si tu veux, avec les micros d'ambiance, là cette fois-ci. Et le mix, il a été super facile parce que l'ambiance était tellement folle qu'on a eu cette assise-là, on a ouvert les pistes d'ambiance et après on a rajouté juste les pistes par-dessus, ça a marché direct, c'était très, très facile, c'était cool.
Ce morceau s'appelle « Mort au con, foutez-moi un putain de bordel !» La la, la 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 la, la 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 la.
Sagan Adjoint, c'est un groupe qui a été fondé en 1993. L'année 93 semble quand même être un bon cru, parce que par exemple les Punish Yourself ont démarré aussi la même année. No One Is Innocent, je pense que c'est à peu près la même période. Donc je te pose la même question qu'à eux, c'est quoi la recette de la longévité pour Sagan Adjoint?
Je crois que nous, si tu veux, comme beaucoup de groupes, c'est le côté humain. Je pense que les aventures, ça s'arrête dans les groupes quand les gens ils se prennent la tête. Soit parce qu'il y a vraiment une désaffection totale du public pour un groupe, c'est ce qui est pas notre cas. Et l'autre, c'est parce que les gens ils se prennent la tête en interne pour des raisons X ou Y, ou juste toi les chemins, tu commences avec quelqu'un, c'est ton pote, et 25 ans après, les voies peuvent se séparer. Et il y a des groupes qui splittent à cause de ça, ce qui n'est pas notre cas non plus. Il y a eu 2-3 changements de line-up, justement des gens, non pas on s'était pas pris la tête, mais des gens qui avaient envie de changer ou de poser leur valise. Et là, en bons adultes, on s'est mis autour du table et on s'est dit, le mieux peut-être c'est que t'arrêtes dans ces cas-là plutôt que qu'on se prenne la tête, parce que nous on n'a pas du tout envie d'arrêter. Et puis elle a continué comme ça. Et on n'a jamais été à la recherche de la performance. Tagada, c'est un groupe punk, on n'est pas là à faire on n'est pas des virtuoses de la musique, on se revendique pas du tout comme étant des virtuoses de la musique. La grande qualité du groupe, c'est plutôt la sincérité et donc l'énergie qui ressort brute, qui ressort du concert. Et donc pour ça, on a besoin que, si tu veux, on a besoin d'être unis, toi, comme une bonne équipe de foot, comme en avant Guingamp. Hein, toi, c'est une petite équipe, mais toi, unis, on arrive à faire des choses. Et nous, on s'entend super bien. On a encore 15 balais, si tu veux, quand on ferme la porte du camion, on prend le même plaisir à claquer la porte, à être à neuf dans le camion, à partir tous les week-ends en aventure. Et je pense que tant que ça se passe comme ça, on n'est pas prêt à s'arrêter.
Parler à l'instant, hein. En 2003 vous avez fondé Rage Tour, donc c'est une belle histoire. Vous êtes parti de rien, vous avez fondé une des structures les plus incontournables quand même du métal et du punk en France. Ça devait pas être simple quand même de gérer une structure comme ça à côté d'un groupe, ça s'est passé comment?
D'abord une volonté, c'est-à-dire que, je le dis tout le temps, on est des descendants de l'alternatif, tous les messages de ces groupes-là, c'est des petites graines qu'ils ont jetées, et nous, on est une plante qui est née de ça. Donc avec les idées qu'ils véhiculaient, donc on a dès le début voulu le faire en autonomie, en DIY, en alternatif. On a refusé de signer sur des labels, des gros labels qui nous ont proposé quand on était jeunes, parce qu'on voulait le faire nous-mêmes, donc ça a été très long. Hein, donc effectivement en 2003 c'est la création de Rage Tour et la SARL et tout qui va avec, mais en fait tout ça découle d'une association qu'on a créée en même temps que le groupe, si tu veux. Moi et Cyrine on a créé ça et dès le départ et on a développé nos réseaux comme une petite toile d'araignée à base d'échanges, beaucoup échanges avec des groupes. Ils nous faisaient jouer chez eux, on les faisait jouer chez nous, ils sortaient leurs disques chez eux, on sortait leurs disques chez nous. Enfin, toi, ça a été beaucoup ce système de trade musical un peu qui a fait les racines et les bases de Rage Tour. Chour et du groupe et d'Orage Productions. Et en fait, petit à petit, bah, la toile d'araignée a grandi et tu as de plus en plus de contacts et de plus en plus de copains. Et puis, pof, 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 pof. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement à avoir une cinquantaine de groupes français, 200 groupes internationaux et puis une structure qui est très stable et costaud, si tu veux, parce que c'est né de rien avec nos propres deniers, on n'avait pas. Donc les premiers 100 balles, c'était en francs à l'époque, on mettait de côté, tu vois, quand on allait jouer à la trinquette à Rennes ou ce genre de choses, allez, hop, et 100 plus 100 plus 100 plus 100, on achetait un camion, et puis après, toi, tout s'est développé. Maintenant, c'est vrai qu'on a nos studios, on a plein de choses, c'est 20 ans de travail, tu vois, 25 ans de travail, et 25 ans de travail alternatif, tu vois, très différent. Et aujourd'hui, la plus belle chose qui nous en est venue en retour, c'est de la part de tous ces groupes qui ont planté les graines, si tu veux, qui viennent nous voir, soit travaillent avec nous, il y en a plein qui travaillent avec nous, et qui disent c'est trop génial ce que vous avez fait, on aurait dû faire ça. Et nous on leur dit mais c'est grâce à vous qu'on l'a fait, parce que c'est vous qui nous avez, tu vois, indirectement ou directement même, donné cette envie de le faire. Et beaucoup de ces groupes reviennent vers nous. Aujourd'hui, là je vois par exemple on travaille, parce que ça s'ouvre un petit peu, hein, parce que c'était très metal, punk, hardcore au début, puis de par les connexions, les réseaux, les gens qu'on connaît, on se limite pas, c'est comme dans la musique, on n'a pas de carcan, ce serait ridicule d'avoir des carcans. Donc on fait des trucs plus rock et tout, et là par exemple on fait un groupe rock latino qui s'appelle Flor del Fango, avec des anciens membres de La Mano Negra, de Mano Solo, Chihuahua, il y a deux gars qui jouent avec Manu Chao, enfin tu vois, c'est pas du tout le même monde musical que nous, et pourtant c'est le même monde, parce que c'est ces gens-là, tu vois, qui nous ont donné envie de faire ça, et quand eux ils sont arrivés chez nous, ils ont dit « Ah bah voilà ce que je te disais tout à l'heure, c'est trop super ce que vous avez fait, il y a tout, tu sais, nous on a un studio, on a des camions, on a une structure de tournée, on a une structure de prod, et je les entends dire, tu vois, oh c'est ça qu'on aurait dû faire avec La Mano, ou leur dire c'est... les Tagada, ils ont fait ce que nous on voulait faire avec les Berrues, qu'on n'a pas été foutu capable de faire. Voilà, c'est ça notre retour le plus important aujourd'hui qui nous fait vraiment plaisir. Quoi.
Alors, parlons aussi un petit peu quand même du bal des enragés. Parce que déjà depuis quelques années, tu sais, vu avec la crème des musiciens de la scène punk et alternative française, et vous faites des reprises de standard punk, rock, metal. Est-ce que vous avez des dates prévues ensemble prochainement par exemple?
Ouais, alors en fait, tu sais, c'est né d'un accident ça. On avait fait un concert de soutien pour le pont du rock à Malétroit, ils nous ont donné une carte blanche, on s'était 2 heures de Tagada, c'est peut-être un peu long, tiens on va inviter des potes et puis on va faire une petite teuf tous ensemble. Pof, on a donné un nom, le bal des enragés. Ça a tellement plu à tout le monde qu'on a fait une première tournée, ça c'était en 2009, on a fait une première tournée en 2010, une deuxième en 2013, une troisième en 2016. Là aujourd'hui, 2019, on est aux portes de 2019 et c'est les 10 ans du bal. Donc forcément, on va faire des dates. Bon, il y a malheureusement des gens qui nous ont quittés dans l'aventure, Schulz et Sven, voilà, qui sont morts malheureusement. Donc on avait fait déjà la tournée 2016 était déjà dédiée pour Schulz. Bon, voilà, maintenant Sven est mort quelques semaines après la fin de cette tournée-là. Voilà, pour eux, pour nous, pour tout le monde, on a envie de fêter cet anniversaire-là. Donc on fait d'abord une première tranche de 10 ans 10 dates. C'est 10 dates en salle qu'on fait au mois d'avril, le week-end d'avril à tout début mai. Et ensuite, on fera quelques festivals. Alors le planning, tu vois, c'est compliqué. Il y a tellement de gens, comme tu dis, dans le bal, que c'est compliqué. Donc on fera un peu moins de dates que ce qu'on avait fait en 2016. Mais on devrait faire, voilà, c'est 10 ans, 10 dates en salle. Et il devrait y avoir 10 festivals, 10-15 festivals, donc 20-25 dates. Et il se trouve que cette année 2019, c'est aussi les 25 ans de Tagada. Alors comme là, on va avoir fait 190 dates sur la peste et le choléra entre mars l'année dernière et décembre, hein, on s'est dit, on va quand même pas abuser, on va quand même pas refaire 50 concerts en club l'année prochaine. Et donc, on en profite du coup pour mixer des concerts plus événementiels. Donc finalement, l'année prochaine, ce sera un peu des concerts événementiels répartis entre soit Tagada, soit le bal des enragés. Et à mon avis, ça va être un bon cru aussi, on va bien se marrer.
Le chant en français est quand même important dans Tagada Jones, hein, parce que vous avez de la rage à exprimer. Dans l'actu du moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'enrage particulièrement?
Bon, il y en a beaucoup, hein, parce que c'est aussi ça, quand on dit depuis le début la longévité du groupe, c'est que la base, c'est parce qu'on moi notamment et tous les autres, on a eu envie de dire haut et fort ce qu'on avait sur le cœur, et puis notre vecteur, si tu veux, c'était la musique, et ça l'est toujours. Donc il y a tellement de choses qui vont mal et qui nous énervent tous les jours que finalement de l'eau à d'eau à notre moulin, il y en a plein. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui me... me donnerait le plus envie de faire un titre, même si on l'a déjà abordé, parce que forcément au bout de 25 ans on a souvent abordé le sujet, donc souvent le fond est un peu le même, c'est la forme qui change, le morceau, tu vois, on essaie de tourner autour d'une autre histoire, mais je crois qu'aujourd'hui il y a vraiment ce décalage entre le monde politique la vraie vie de tous les jours, si tu veux, et on avait fait un morceau déjà un peu en 2003 là-dessus, mais là ce serait l'envie que j'aurais maintenant. Il y a vraiment, l'année dernière c'était vraiment sur le côté des migrants, parce que ça m'a trop énervé, si tu veux, les gens trop bas d'esprit, trop bas du front, qu'on n'arrive pas à comprendre que ces gens-là qui sont pris entre deux feux, si tu veux, de Daesh ou de Bachar el-Assad, s'en vont, mais ils viennent pas en vacances en France, tu vois, ou en Europe. Et ça, tous ces gens qui comprennent pas ça, je me dis, mais parce qu'à aucun moment ils se mettent à la place des gens, parce que c'est... Donc là, on a fait un morceau là-dessus, c'était vraiment... Même aujourd'hui, ça m'énerve encore, tu vois, il y a tellement de tous les jours, on entend parler des choses encore là-dessus par rapport aux migrants, et tellement de gens qui les mettent de côté, ça m'énerve quand même aussi beaucoup. Mais bon, on a fait un morceau l'année dernière là-dessus, donc je ne vais pas en refaire tout de suite. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment cette classe politique qui finalement est tellement à côté de la plaque, tellement dans d'autres sphères. C'est sûr, les mecs sont tous des énarques, ils vivent dans un monde que nous on ne connaît pas, et eux ne connaissent pas vraiment notre monde. Et j'aurais souvent envie de les inviter à venir découvrir autrement qu'entouré de 5 gardes du corps pour serrer 15 mains dans un marché et en profiter pour prendre 350 photos et alimenter leurs réseaux sociaux.